Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Dans le studio Aline, Thomas et Benjamin, vous avez préparé cette émission du jeudi 20 mars. Mais je me tourne d'abord vers toi Aline, on aborde un sujet spécial aujourd'hui. De quoi et qui s'agit-il ?
Exactement, aujourd'hui une émission un peu particulière puisqu'on reçoit, Jean-François Dubost, co-président de l'association Patate, Luc Kenzel et Isabelle Higou, membres de l'association. Alors pourquoi Patate ? Je vais le dire tout de suite. Pour les premières lettres de chaque mot de « Préservons l'avenir des terres amiénoises pour toutes et tous ». Et aussi pour la référence au territoire et à ses cultures de pommes de terre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être venu ici à Radio Campus. On va commencer par une question assez simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts de l'association et en fait simplement pourquoi avoir créé Patate ?
Alors oui, l'histoire commence en 2021. En avril 2021, des élus de l'opposition d'Amiens nous alertent sur le fait que Amiens Métropole est en train de réfléchir à artificialiser, transformer une terre naturelle en terre bétonnée, 62 hectares, et en fait même au départ 195 hectares, à l'ouest d'Amiens, au-dessus du quartier de Renoncourt et entre Renoncourt et Pont-de-Metz, donc une dernière entrée verte. Et des citoyens de tous horizons, citoyennes, se sont réunis sur place pour voir un peu les lieux, le terrain, et petit à petit, comprenant aussi la procédure qui allait être mise en place, la rapidité avec laquelle ça allait pouvoir se faire, on s'est fédéré au sein d'un collectif qui au départ s'appelait Stop Aurore Borealia, puisque en fait cette zone d'aménagement concerté, la ZAC, ça s'appelle Borealia, c'est Borealia 2, Borealia 1, en fait c'est une partie de logement qui est en train d'être achevée au-dessus du quartier de Renoncourt. Donc ça a commencé en 2021 et l'association s'est constituée petit à petit progressivement, on a créé les statuts et on a créé la forme d'une association pour être plus solide et puis pour avoir envisagé la suite dont on parlera certainement. On l'a créée au début de l'année 2022, elle a été déclarée en préfecture de mémoire autour de fin mars, je crois, 2022.
D'accord. Et Luc, si j'ai bien compris, toi, tu es riverain, tu habites au Petit Saint-Jean, donc un quartier à côté de Renoncourt. Est-ce que tu t'es engagé directement dans cette association ? Pourquoi ?
C'est-à-dire que nous sommes plusieurs, que ce soit sur Renoncourt, le Petit Saint-Jean et Elbeuf, à nous impliquer depuis quelques années maintenant sur le champ politique, on va dire, que ce soit à l'occasion d'élections ou lorsque des questions se posent, qui concernent ces quartiers. Et c'est vrai que l'information nous est arrivée assez vite. Tout de suite, on s'est alerté les uns les autres et puis on a rejoint les membres fondateurs de ce qui allait devenir la Patate. Et parce que c'est simplement une alerte citoyenne qui fait qu'on s'intéresse à ce qui se passe et que très vite, on a des informations qui justifient cet engagement, à savoir qu'il y a effectivement très... D'une part, encore une fois, cette lutte, mais qui fait écho à d'autres luttes dans plein d'autres endroits, de cette expansion citadine... qui grignotent petit à petit les terres agricoles et qui sont en plus affectées souvent à des usages qui sont quand même très contestables. Et au nom souvent d'un hypothétique emploi qui serait créé, alors que voilà, il suffit de réfléchir peut-être autrement pour considérer même cette notion-là d'emploi. Donc voilà, et depuis le début on est là, on est, y compris les petites mains, dès qu'il s'agit de faire des événements qui permettent d'appeler les gens à nous rejoindre, où effectivement, on a aussi dans notre association des gens qui sont très pointus sur un plan juridique ou sur un plan écologique ou sur un plan d'aménagement du territoire, quoi, qui sont des gens vraiment de très bons conseils.
Et justement, avant de revenir sur votre mobilisation, est-ce que vous pouvez simplement m'expliquer c'est quoi ce projet exactement ? Qu'est-ce que Amiens Métropole voulait mettre en place dans ce quartier-là pour dire à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est une ZAC ? Quel est le projet contre lequel vous vous battez finalement ?
Donc moi, Isabelle, je peux vous dire ce que j'en ai retenu tout au moins, c'est de la bétonisation de terres agricoles. Pour moi, ce qui semble être une ineptie en 2025 en particulier, cette bétonisation, en plus, ce n'est même pas pour des logements, ce n'est même pas pour une ferme, ce n'est même pas pour des choses comme ça, ce sont pour des hangars, de la logistique a priori, puisque le projet de départ, c'est implanter de la logistique. Donc moi, ça me révolte totalement. Je suis pourtant d'Amiens, pas du quartier de Renoncourt ni du Petit-Saint-Jean, mais c'est inacceptable. Ça se passe partout en France, mais en Picardie particulièrement.
Et justement, ils évoquaient Hubert de Genlis, le maire d'Amiens, du coup, pendant un conseil municipal en janvier 2025, évoquait que, je cite, le foncier à vocation économique se fait rare, mais nous voulons continuer d'attirer des investissements productifs, créer des emplois et stimuler l'activité économique. Si j'ai bien compris.
Comme une secte.
Si j'ai bien compris, vous êtes en totale opposition avec cette.
En fait, c'est malin de sa part parce que on le voit partout en France, mais évidemment, Métropole ne déroge pas à ça. On oppose rapidement, quand il s'agit de défendre l'environnement, le fait, on l'oppose à l'économie et on l'oppose à l'emploi. Et alors là, en fait, le débat n'est plus possible. Parce que, évidemment, qui est contre l'emploi ? Personne. Un développement économique, on sait bien que c'est utile. Et après, s'il faut passer à l'étape d'après, en fait, il faudrait se dire quel développement ? Quel type d'emploi ? Ou quelles sont les alternatives? Mais là, c'est déjà trop compliqué dans ce discours politique qui nous est opposé. C'est beaucoup trop compliqué. Et on perd les gens et on perd parfois même certains médias. Et en fait, c'est pas le sujet pour nous. Le sujet, c'est qu'en 2025, au 21e siècle, on doit faire la protection de l'environnement et la protection de l'emploi, évidemment, et du développement économique. Mais c'est les deux. Et donc, c'est plus compliqué. Et c'est certainement pas tout seul. Là, vous voyez, en fait, c'est 62 hectares qui vont partir en fumée potentiellement. Enfin, on n'espère pas. 62 hectares qui partent en fumée potentiellement à Amiens Métropole. Mais est-ce qu'on a réfléchi sur le fait qu'en s'alliant sur l'espace du métropolitain, le Grand Amiénois, donc avec beaucoup plus de communes, il y a des friches industrielles, est-ce que ces projets, on pourra revenir d'ailleurs sur de quoi on parle concrètement, parce qu'en fait aujourd'hui on ne sait pas trop, hein, est-ce que ces projets pouvaient s'implanter ailleurs, autrement, en coopération avec d'autres communes? Tout ça, ça n'a pas été abordé en fait. Donc c'est facile en fait, en fin de parcours, lorsque tout le dossier est verrouillé, de dire si vous êtes contre ce projet, c'est que vous êtes contre l'emploi et l'économie. Et nous, juste sur l'emploi, ce qu'on peut répondre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise positionnée. On a parlé de logistique, on sait très bien que c'est un secteur qui, en fait, ne recrute pas beaucoup, en fait, par rapport au nombre de mètres carrés utilisés, les emplois sont très faibles, et en plus, la qualité de l'emploi, on pourrait en parler très longtemps, on pense à Amazon, et on voit très bien ce que ça donne. Donc, on n'a pas d'entreprise sur la table, on a des chiffres, au début, c'était 5000 emplois créés, c'est complètement illusoire, on n'a pas une entreprise et pas un type d'activité. On est passé de la logistique, comme le disait Isabelle, ensuite, on a basculé sur quelque chose d'un peu vert, entreprise locale, verdissement, transition, etc. Maintenant, on parle de gigafactory, donc on pense aux batteries. Donc ça fait transition écologique, mais en fait, d'abord, les gigafactory ou entreprises de batteries sont très consommatrices en eau. Ça pose beaucoup de problèmes en termes de transport, de poids lourd, etc. Donc c'est pas vertueux, absolument. Et en plus, gigafactory, c'est pratique parce que ça laisse penser qu'on parle de batteries, mais ça peut concerner tout type d'industrie. Donc en fait, on risque peut-être même d'atterrir sur un projet qui est pire que la logistique qui était annoncée au départ. Donc en fait, il y a un grand flou. Et malgré ça, on nous dit que ça va permettre de créer des emplois au niveau amiénois. Mais il faut aussi retenir que, d'une façon générale, la création d'entreprises ne veut pas dire qu'on donne des emplois aux gens qui sont au chômage sur notre territoire. Et que bien souvent, ça fait venir des personnes extérieures. Et ça, on a les chiffres de l'INSEE. On a un copain qui travaille sur l'association sur ces questions-là et qui montre qu'en fait, ce n'est pas du tout vérifié. Donc, je reviens à la question initiale. En fait, c'est juste un argument politique et de façade de dire « Mais vous êtes contre l'emploi et l'économie si vous ne voulez pas transformer ces terres agricoles. » Mais en fait, le sujet, il est évidemment plus compliqué et nous on veut pas rentrer dans ce débat binaire de il y aurait qu'une seule solution. Non, en fait il faut faire un effort et c'est ce qu'on reproche et c'est ce qu'a reproché en creux ce qu'on a entendu au tribunal, c'est que la métropole n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts sur la qualité de ce dossier.
D'accord. Et justement, vous parlez des emplois, etc. Vous évoquez aussi l'impact sur la faune et la flore du projet Borealia. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, il a été finalement reconnu que tout ce secteur-là était riche d'une faune dont certains éléments pouvaient être mis en danger par l'arrivée de Borealia 2. On a d'ailleurs fait des balades naturalistes avec des gens dont c'est la compétence de faire valoir les richesses de la faune et de la flore d'un territoire donné. Qui serait réellement impacté par l'implantation d'une zone économique, commerciale, industrielle, ou on ne sait pas. Parce que, pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Jean-François, le problème aussi, c'est qu'il y a quand même un certain flou sur les affectations Hein, qu'est-ce qui va être fait à cet endroit-là, en dehors du fait que c'est assez scandaleux de notre point de vue, que voilà, qu'encore une fois, parce qu'il y a des friches industrielles sur Amiens qu'on pourrait peut-être requalifier. Il y a peut-être le problème aussi qu'on a, c'est que il y a une espèce d'absence de pensée, de réflexion, donc de dialogue sur ce dossier-là. Et voilà, donc c'est ça qui est très problématique. Et puis par contre, des choses qui ont été qui ne sont pas questionnés par les pouvoirs publics, c'est les conséquences que ça peut avoir pour les populations des quartiers Renancourt, Petit-Saint-Jean, enfin les populations riveraines, en termes de sécurité, avec les problèmes d'inondation potentielle, le problème de la pollution, les norias de camions qui risquent de traverser le quartier, etc. Il y a des tas de questions qui sont très clairement posées, qui sont très clairement esquivées par les pouvoirs publics. Donc c'est ça aussi qui pose problème. En même temps, la protection... ce qui n'empêche pas, comme le disait Jean-François, qu'on peut, pourquoi pas, réfléchir à implanter quelque chose là, mais qui puisse justement être en lien avec la nécessaire préservation. Je veux dire, effectivement, on est en 2025, la problématique écologique est quand même, gravement essentielle aujourd'hui. On pourrait peut-être essayer de se projeter autrement qu'à travers, encore une fois, de la bétonisation et...
Sur les espèces, juste, il y a un élément intéressant qui montre combien le travail n'a pas été correctement fait, en fait. Dans ce type de projet, il faut faire une étude de l'impact du projet sur toutes les dimensions que Luc rappelait, dont effectivement la faune. Et dans la faune, vous avez les chauves-souris. Et on sait qu'en France, les chauves-souris sont, pour la majeure partie des cas, une espèce extrêmement menacée. Elles ont un rôle dans l'écosystème, mais elles sont menacées de disparition. Et dans la première version de l'étude d'impact, il y avait deux espèces qui étaient repérées. Alors, ils font des passages, c'est organisé. Il faut choisir le moment, la nuit, le moment de la reproduction, etc. Enfin, c'est assez calibré, mais ils en avaient repéré deux. Et il y a une autorité environnementale qui leur dit, en fait, c'est pas suffisant. Donc la métropole disait, c'est bon, en fait, il y en a que deux, l'impact est modéré. Et une autorité environnementale leur dit, en fait, il faut que vous refassiez, c'est pas suffisant, il faut en faire plus. Donc là, pour le coup, Amiens obtempère, le fait, et ils en découvrent deux autres, et qui sont encore plus protégés et plus menacés. Et encore, la façon dont ils ont procédé n'est pas suffisante par rapport, du point de vue de certains spécialistes, sur ces questions. Donc c'est la photographie, en fait, est imparfaite. Et cet exemple, il est révélateur, parce qu'en fait, on nous a présenté un dossier sur lequel les élus se sont prononcés, qui était imparfait, mais qui a été présenté comme étant parfait, puisque les conclusions, c'était ça va, c'est modéré, on peut compenser. Et en réalité, on voit bien que si on fait un effort, si on se met dans une disposition d'esprit de « on veut vraiment protéger nos sols, notre faune, notre environnement », on va découvrir des choses qui sont autrement plus complexes, qui vont peut-être contraindre. Mais c'est ça, en fait, le principe de la protection de l'environnement. C'est pas faire un truc à prix réduit qui coûte pas grand-chose.
Oui, Isabelle.
Oui, je voulais dire que pour moi, il y a eu un événement marquant quand quelqu'un a remarqué des cigognes noires en migration sur notre territoire. Là, pour moi, ça a été j'étais éblouie. Ce sont des animaux magnifiques. En effet, ils étaient en migration, donc temporairement sur notre territoire. Mais ça veut bien dire que notre territoire est utile pour ces deux cigognes noires magnifiques. Et il y a eu les fameux bruants jaunes. Alors là, j'aimerais que les enfants de mes amis, je n'en ai pas, puissent pouvoir un jour voir ces bruants jaunes qui sont des oiseaux qui me paraissent exotiques. En Picardie, nous avons des oiseaux exotiques.
C'est beau. Vous avez aussi... l'étape d'après, en fait, ça a été de déposer un recours devant le tribunal administratif d'Amiens le 30 août 2022. Pourquoi avoir décidé de déposer ce recours? Et est-ce que vous pouvez me parler de ce qu'a dit la rapporteure? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est-à-dire que dont les recours ne peuvent qu'être individuels. Donc nous sommes 9 requérants à avoir déposé ce recours donc contre le projet Borealia, ce qui permet d'ouvrir l'instruction d'un dossier auprès du tribunal administratif. Donc nous avons bien évidemment fait appel à une avocate d'abord, mais qui ensuite est partie vers la magistrature, donc qui a passé le relais à l'avocat qui a plaidé la cause la semaine dernière au tribunal administratif. Voilà, donc ce qui permet aussi d'enclencher effectivement un travail d'observation de la force publique sur un plan administratif afin de voir effectivement d'évaluer ce qui les tenants et aboutissants de ce qui se joue là et d'un point de vue du droit, parce que c'est très circonstancié, c'est très argumenter, c'est assez impressionnant d'ailleurs, hein. Moi j'étais assez impressionné, voilà, on est strictement au niveau du droit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été pas fait, qu'est-ce qui est contraire à certaines règles, qu'est-ce qui est contraire à certaines lois, à certaines jurisprudences, etc. Et ce qui a amené donc la rapporteure publique à, je crois, pointer 7 points de défaut dans la procédure d'Amiens Métropole.
La question du pourquoi, en fait, dans notre cheminement d'association, elle s'est imposée au moment où on a déposé ce recours, parce que d'abord, on a participé à des réunions publiques auxquelles nous avons été invités, pas en tant qu'association, on n'existait pas, mais en tant que citoyen. Ce qu'on a entendu, c'était une promotion du projet, pas une participation, une consultation, c'était une promotion. On nous informait au mieux, quoi. Quand on posait des questions, il y avait des réponses, mais en fait, on voyait bien que le dossier était bouclé. Donc ça pose la question de comment on associe des citoyens et citoyennes au niveau local à des décisions publiques. Là, franchement, il n'y en avait pas. Le truc était enclenché et il fallait cocher la case participation du public, donc ils l'ont coché en faisant des réunions, etc. Pour la petite histoire, le 30 juin, quand la ZAC a été créée, le 30 juin 2022, le matin, les habitants de Renancourt avaient dans leur boîte aux lettres un 4 pages en papier glacé couleur très, très vert, en couleur, qui vantait les mérites de cette ZAC. Il y avait eu peut-être une visite dans le quartier et peut-être 2-3 réunions d'information publique, mais si la métropole a éprouvé le besoin de dépenser de l'argent pour mettre un 4 pages le jour ou le soir les élus allaient adopter la création de la ZAC, on peut se poser des questions sur le rapport aux citoyens et la place qu'ils occupent. Deuxième élément, on a réuni 34 000 signatures contre ce projet. On a commencé par faire de la mobilisation citoyenne, en fait, à appeler le public à se prononcer. 34 000 signatures, on les a envoyées, en tout cas on en a fait état auprès des autorités. Aucune réponse. On a eu une rencontre avec le vice-président chargé du développement économique où on a constaté qu'en fait, on ne pouvait pas s'entendre, qu'on n'était pas d'accord. Ensuite, on a fait notre travail de sensibilisation, d'interpellation de députés. Il y avait la ministre Barbara Pompili qu'on avait réussi à toucher à un moment donné. Puis ensuite, Cécile Delpirou, François Ruffin. Voilà. On a fait notre travail d'interpellation des politiques. Malgré tout ça, la décision a quand même été prise. Donc il était en fait évident que l'étape d'après pour nous, on revendique nos droits, on considère que la décision était illégale, et c'est ce qu'en substance a dit, en fait c'est des insuffisances, mais c'est des illégalités qu'a pointé la rapporteure publique, donc la magistrate, en charge de fournir un avis sur ce dossier au tribunal la semaine dernière. Et bien donc, voilà, comme c'était illégal, on a considéré qu'on avait le droit, et c'est le droit de tout le monde, de saisir un tribunal pour régler un litige. Et le litige, là, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la façon dont la procédure a été faite. Et heureusement, pour l'instant, mais sous réserve de la décision du tribunal, pour l'instant, la rapporteure publique, mardi dernier, a quand même montré qu'on avait raison.
Justement, le rapporteur public demande l'annulation partielle ou totale du projet en raison de nombreuses insuffisances entachant l'étude d'impact. Il y a aussi la décision qui va arriver finalement du 1er avril. Oui. Est-ce que, comment vous vous sentez par rapport à cette décision du tribunal
Alors, évidemment, en sortant de l'audience, je regarde mes copains et copines, on était quand même plutôt rassurés. On avait eu connaissance du sens des conclusions de cette rapporteure. Donc, on savait que c'était annulation partielle ou totale. En fait, à l'audience, elle a dit annulation totale. Hein. Le partiel est sorti. Donc, il y a quand même 7 points d'illégalité. C'est quand même conséquent. Notre avocat est plutôt confiant. On est très confiant, mais on est prudent, parce qu'en fait, c'est quand même un tribunal indépendant, et c'est très normal, hein, qui juge. Donc, il peut aussi, à un moment donné, décider autre chose. Statistiquement, on va pas rentrer dans le détail, mais généralement, quand on a ce degré-là de conclusion, on peut quand même penser que c'est quand même bien parti. D'ailleurs, le communiqué d'Amiens Métropole laisse penser que, bon, bah, dont acte, quoi. Juste après l'audience, il y a eu un communiqué sur lequel on pourrait éventuellement revenir. Comment on se sent? Bah, voilà, on attend avec impatience surtout. On fera savoir ce que l'on en pense le jour où la décision sera rendue. Si c'est positif, je pense qu'on s'autorisera à faire une petite soirée festive de soutien aussi à l'association et aux riverains et riveraines engagées. Voilà.
Et surtout un 1er avril.
Oui, et la décision tombe le 1er avril. Oui.
Alors après, c'est vrai qu'il y a une procédure qui peut se poursuivre avec des appels, etc. Et rappeler aussi que là, Borrelia 2, c'est 62 hectares, mais potentiellement, je crois qu'il y a 195 hectares qui sont concernés par des aménagements éventuels.
Et c'est vrai, Luc, à raison de le rappeler, on reste vigilant parce qu'en parallèle, il y a le plan local d'urbanisme qui a été modifié pour accueillir cette ZAC. Et en fait, cette décision, elle est indépendante de celle qui a été traitée au tribunal. Puis vous avez une révision générale du plan local d'urbanisme. En fait, pour simplifier, tous les feux sont en train de passer au rouge sur la question de la destruction des sols. Et c'est un copain de l'association qui utilise cette expression, les feux passent au rouge et Amiens Métropole fonce et accélère, appuie sur l'accélérateur pour passer à l'orange et tenter d'emporter son enveloppe de terre. Donc en fait, par tout moyen, on voit sur plein d'autres sujets et possibilités qu'Amiens Métropole essaye de, par tout moyen, récupérer quand même cette enveloppe de terre. Donc nous, ça veut dire que le combat n'est pas fini.
Justement, le communiqué de presse du 11 mars, avec la réaction du beurre de Jean Lys, actuel maire d'Amiens, et d'Alain Geste, président d'Amiens Métropole, ils disent, je cite, « Malgré l'avis du rapporteur appelant à l'annulation de la procédure d'aménagement de ZAC et conformément à notre engagement pour un modèle de développement à la fois innovant et responsable, nous réaffirmons toute l'ambition qui est la nôtre vis-à-vis de cet espace de projet. » Plus loin, ils disent « Il est essentiel pour notre agglomération de disposer des leviers visant à favoriser les nouveaux investissements productifs, stratégiques et ainsi à créer des emplois durables. » C'est du coup ce que vous me disiez en première partie d'interview sur les emplois. Mais ils ont réitéré après cette prise de parole de la rapporteure publique finalement.
Le communiqué est court, mais beaucoup de choses sont dites quand même de ce qu'est la posture de la métropole sur ce
dossier. Justement, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce communiqué de presse ?
Bah, moi, je trouve qu'à tout le moins, on aurait pu attendre d'Amiens Métropole un tout petit peu plus de on va pas dire de respect, parce que là, ils sont pas irrespectueux vis-à-vis de la justice, mais ils auraient pu entendre quand même ce qui s'était passé au tribunal. Et réaffirmer aussi rapidement que, en gros, peu importe, on va continuer, alors qu'il y a quand même, ils auraient pu reconnaître, mais la décision n'est pas prise, donc on voit bien, ils sont dans un entre-deux, mais voilà, je trouve ça quand même assez curieux de réaffirmer aussi fermement et après leur engagement, mais en même temps, c'est comme dit Luc, ça veut dire beaucoup de choses et pour notre combat aussi beaucoup pour la suite. Voilà, la création de l'emploi, etc. Moi, je reviens, ça a été un des motifs critiqués par la rapporteure. La justification du projet n'est pas suffisante. On ne peut pas, en fait, juste faire une phrase comme ça, disant « Ah, c'est un levier indispensable », ben, étayez-le, démontrez-le, et inscrivez-le dans du concret, quantifiez le type d'emploi, dites, prenez la liste des demandeurs d'emploi, moi je l'ai faite, la liste des personnes qui sont en recherche d'emploi à Amiens et leur niveau de qualification, dites-nous en quoi ces qualifications-là vont pouvoir être prises dans des entreprises qu'on nous présente comme à la pointe, c'est pas du tout évident, regardez les... Enfin, il y a énormément de choses à dire sur cette question du chômage et franchement je trouve ça vraiment dégoûtant personnellement d'utiliser cet argument en permanence pour faire passer des projets qui en fait se soucient relativement peu en réalité du quotidien de ces personnes qui sont au chômage, parce qu'en fait derrière on sait très bien que ça marche pas comme ça et que ce taux de chômage est stationnaire pour plein d'autres raisons et c'est pas juste manger des sols et mettre des entreprises qui va le résorber. Donc un petit peu de colère quand même, et puis dans ce communiqué à la fin, je vais vite je crois, il y a quand même cette allocution sur le fait qu'ils resteront toujours à l'écoute des associations et des citoyens au cours de la procédure. 400 expressions citoyennes, ce qui est énorme pour un projet comme ça, d'habitude il y en a 10. 400, parce qu'on a fait le travail, 400 personnes s'expriment, 380 sont contre. Le projet est quand même adapté. Donc ça mange pas de pain de mettre cette petite formule pour essayer de brosser tout le monde dans le sens du poil.
Pour finir, une dernière petite question. Est-ce que vous pouvez me parler de votre autre mobilisation, de vos autres mobilisations à Boves et au Boscal rapidement pour parler de ça et après on conclura.
C'est-à-dire que ce sont des mobilisations, je veux dire, qui se rencontrent effectivement, des projets similaires ou je dirais étayés par le même souci de. de l'emploi se mettent en place à différents endroits. Et c'est vrai que des connexions se sont faites. Des membres des associations du Bosquet et de BOF sont venus à notre Assemblée Générale, par exemple. On échange, mais chacun mène un petit peu son combat. Mais effectivement, il y a des connexions qui se mettent en place, qui permettent déjà de voir qu'il y a un certain nombre de combats qui sont menés. Et que voilà, c'est quelque chose qui commence petit à petit à... C'est-à-dire cette espèce de conscience citoyenne qu'il faut quand même, à un moment donné, être attentif à ce qui se passe. Hein, parce que les manières dont ça se passe, on a vu au Bosquet et à Boves, c'est pareil, d'un point de vue démocratique, c'est proprement hallucinant. Hein.
Le Bosquet, c'est 43 hectares de zone commerciale, enfin d'entrepôt logistique, et Boves, juste pour préciser, c'est l'extension, je crois que c'est doublement, mais je ne suis pas sûr, l'extension d'une zone d'enfouissement des déchets à Boves, et dont les odeurs, en fait, importunent, pour ne pas dire plus, tous les habitants de la commune. Donc c'était deux projets de cette nature. Hein.
Et une réussite pour le Bosquet pour
Bosquet,
l'instant.
Ouais. Et le Bosquet est une réussite puisqu'il y a eu un avis défavorable
du préfet.
Du préfet, oui.
D'accord. Eh ben, on peut retrouver toutes vos actualités, vos infos où ?
Assopatate.fr pour le site, même dénomination pour la page Facebook et un petit peu Instagram, mais on manque de force. C'est un appel à bénévolat. On manque de force, notamment pour rester le plus visible possible. Mm-hmm. Voilà.
J'ai envie de dire aussi, pour Assopatate, ce n'est pas comme une patate, c'est A2SOPATATE.
Oui, sans eux.
Merci.
Eh ben, merci à vous, Jean-François, Luc et Isabelle, d'être venus sur notre antenne.
Merci à vous.
Merci.
C'était le titre Anne Wants to Dance du groupe Papouze. Vous êtes toujours dans Info Club Sandwich et pour cette seconde partie de l'émission, Benjamin et Thomas, vous avez préparé les actus du jour.
Absolument. Et pour ouvrir les actualités du jour, les bibliothèques amiénoises vous proposent de prendre part à une rencontre ce samedi 22 mars de 10h30 à midi. En effet, la BAM organise une discussion pour parler de vos coups de cœur, que ce soit un livre, un jeu, un film ou bien de la musique. Venez en parler et même si vous n'en avez pas, venez quand même pour découvrir ceux des autres. Pour participer à cette discussion, il faudra vous rendre à la bibliothèque Léopold Sédar Senghor et réservé sur le site de la BAM. De ton côté, Benjamin, est-ce que tu as trouvé des actualités intéressantes ?
Tout à fait. Le Conservatoire d'Amiens accueille pour le Printemps des Cordes le compositeur et arrangeur Arthur Lavandier, lors d'un concert d'exception ce samedi 22 mars à 18h. Ce projet permet aux élèves des classes de harpe, guitare, contrebasse, etc. de travailler aux côtés de l'artiste, ce qui permettra à l'ensemble des apprentis musiciens d'apprendre auprès du compositeur. Vous pourrez le retrouver à l'auditorium Henri Dutilleux, 3 rue Frédéric Petit. Vous y entendrez deux nouvelles compositions uniques spécialement commandées par le conservatoire, une première pour l'ensemble des harpes et la deuxième regroupant les harpistes et les guitaristes. Il y aura aussi une composition originale pour les guitares et les contrebasses, écrite par la classe d'écriture. Alors si vous êtes amateur de belle musique, rendez-vous ce samedi à l'auditorium Henri Dutilleux. Et pour finir, est-ce que tu as une dernière actu, Thomas ?
Eh bien absolument, Benjamin. En effet, l'Office de tourisme de la métropole amiénoise vous propose de découvrir, pendant la visite guidée savante et conviviale, l'histoire de la petite Venise du Nord. Le tout animé par des guides conférenciers passionnés par la capitale de la Somme. Si vous êtes intéressé, la visite prendra place le samedi 22 mars à 11h. Il est conseillé de réserver sa place sur Internet. Et voilà qui conclut déjà les infos du jour.
Eh bien, merci à tous les deux. Benjamin, c'était ta première actu. Ça va ?
Ça va, ça va.
T'es devenu un fanat du micro ou pas encore ?
On verra.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci à Aline pour l'interview en première partie d'émission. Je vous rappelle que l'émission d'aujourd'hui, elle est à retrouver sur notre site internet radiocampusamiens.fr. Merci de votre écoute. On se quitte sur The Letter du groupe The Box Tops.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she
sister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby sister wrote me a letter. Oh, my baby sister wrote me a letter.